dans ce Judaïka Sport, on peut le dire, je pense. On n'a pas perdu, mais on a quand même une petite gueule de bois ce matin, mon cher Blaise, pour les Belges que nous sommes, après la piètre prestation de nos Diables Rouges hier. Oui, voilà, c'est bien résumé. Le match est bien résumé pour le coup.
Les Diables Rouges hein, hier qui concèdent le match nul face à l'Iran. Les Diables Rouges qui ont été réduits à 10 après l'exclusion de Nathan N'Goy, défenseur central, suite à une petite erreur technique. Mais peut-on en vouloir à ce jeune joueur qui participe là à son deuxième match de Coupe du Monde? La question, elle se pose, Didier, sur l'animation qu'a mis en place l'entraîneur des Diables Rouges. On le rappelle, hein, premier match, un but partout face à l'Égypte, deuxième match 0-0 face à l'Iran. Notre poule qui compose l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande, on partait sur un 9-9, on est à 2 points sur 6 pour l'instant. On va sûrement l'emporter face à la Nouvelle-Zélande qui a perdu 1-3 face à l'Égypte cette nuit, ce qui nous ferait 5 points et donc qualification assurée. Mais c'est vrai qu'hier sur le terrain on a vu un spectacle très 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 peu agréable, et en fait c'est l'équipe belge de Rudy Garcia.
Oui, si on veut. Alors après, moi je suis moins expert que vous pour parler des entraîneurs, à vrai dire. Je voudrais revenir un instant sur Nathan N'Goy qui, jusqu'à ce moment de son expulsion pour une faute dite professionnelle, pour éviter éventuellement un but des Iraniens, et je pense qu'il y aurait eu beaucoup de chances que ce but soit inscrit, évidemment. Jusque-là, Nathan N'Goy, il avait rempli une carte, comme on dirait, parfaite, une copie parfaite, et c'était probablement un des meilleurs, sinon le meilleur Belge sur le terrain, comme au premier match d'ailleurs, donc on va quand même le saluer. C'est pas un gars qui passe à côté de son mondial, malgré que ce soit son premier, vous l'avez dit.
On en a parlé dans la prolongation, c'était mercredi soir. En fait, le plus inquiétant autour de Nathan N'Goy, c'est que c'est le seul joueur qui se projette, alors que c'est notre défenseur central.
Avec Brandon Mekele, qui lui aussi très souvent se retrouve aux avant-postes.
Deux défenseurs centraux qui sont nos menaces les plus importantes, c'est très inquiétant, Didier.
Oui, je trouve aussi. Et puis en même temps, alors évidemment, ce sera probablement l'objet de... On joue la prolongation ce soir, hein, bien sûr, mais on peut se poser des questions sur Rudy Garcia, dans le sens où est-ce qu'il ne subit pas trop la pression des médias, parce que pour ma part, j'ai pas tellement compris pourquoi il aligne un Romelu Lukaku, qu'on adore, hein, ça n'enlève rien à ses qualités, mais qui a joué en tout et pour tout, actuellement, un petit peu plus de 2 heures sur 10 mois. C'est pas des masses, c'est même en dessous de toutes les normes possibles et imaginables. Moi, j'aurais plutôt vu Romelu Lukaku, comme lors du premier match, rentrer à un quart d'heure, voire une demi-heure de la fin, comme un bulldozer, alors que les défenseurs iraniens auraient pu être fatigués, tandis que lui, il s'est fatigué avant les défenseurs iraniens en jouant les 60 minutes qu'on lui avait données. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, effectivement, je pense que au niveau du coaching, ça a été vraiment pas top, dans le sens où on a fait rentrer Pardo, je pense, un peu trop tard, hein, genre même pas 10 minutes de la fin. Avec le temps
minutes.
Supplémentaire. Oui, mais temps supplémentaire compris quand je disais 10 minutes, bien sûr. Et puis, on peut se poser d'autres questions. Après, un entraîneur qui ne gagne pas est toujours un entraîneur mauvais, et un entraîneur qui gagne a toujours raison, hein. Demandez à Roberto Martinez. Je pense que ça a mal tourné. Il faut dire aussi, pour être tout à fait neutre, que le ballon n'a pas spécialement roulé pour les Belges, hein. Il y avait effectivement des actions qui auraient dû finir, et on se demande comment elles n'ont pas fini au fond, en dehors du gardien qui lui a fait des arrêts miraculeux et lui-même ne comprend pas comment il les a fait. Thibaut Courtois en a sauvé 3, si je ne me trompe, dont 2 tout faits. Donc, on peut s'estimer heureux avec ce point, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi personnellement, je reste optimiste quant à la qualification des Diables. Comme disait l'autre, quand tu sais pas te qualifier dans un groupe comme ça, tu n'as rien à faire dans un mondial quel qu'il soit. Donc, à voir. Ils nous doivent une revanche, en tout cas, les Diables Rouges, ça c'est sûr.
Revanche, ils auront donc l'occasion de la jouer contre la Nouvelle-Zélande, hein, comme vous le dites. Je vais un peu sortir la sulfateuse, même si c'est pas forcément consensuel. Moi, je ne comprends rien à l'équipe de Belgique de Rudy Garcia. Vous parliez de Romelu Lukaku, mais ça vaut également pour Kevin De Bruyne. Pour moi, ils n'ont pas grand chose à faire sur le terrain. Les deux sont hors de forme. Les deux n'ont pas joué quasiment de la saison, ou bien Kevin De Bruyne a très peu joué car il a été blessé, puis il n'était pas en accord avec son entraîneur Antonio Conte. Aujourd'hui, on a l'impression que le sélectionneur des Diables Rouges est prisonnier des statuts, hein, que ce soit pour Thomas Meunier, que ce soit pour Romelu Lukaku, que ce soit pour Kevin De Bruyne. Le seul joueur issu de la génération dorée qui tient encore son rang, c'est Thibaut Courtois, comme vous le disiez, Didier, qui nous sauve la mise sur trois arrêts déterminants. Le plus important pour moi, en tout cas, c'est que certes l'Iran n'a pas été dangereux, l'Iran n'a pas forcément fait le jeu, c'est la Belgique qui s'est occupée de tout. Mais ça fait maintenant 2 ans que Rudy Garcia est présent à la tête des Diables. Il est arrivé à la suite de l'Euro 2024 qui était piètre pour les Diables. Il a succédé à Domenico Tedesco. Depuis 2 ans, on a un réel problème face aux blocs bas. Alors là, on part un peu dans les termes techniques, mais c'est important d'en parler. Les blocs bas, ce sont les équipes qui sont supposément plus faibles qui jouent derrière et qui ne jouent pas forcément pour l'attaque, qui joue pour la défense. Et la Belgique, depuis l'arrivée de Rudy Garcia, et ça a toujours été le cas de Rudy Garcia dans tous les clubs qu'il a fait avant la Belgique, avant de devenir sélectionneur de la Belgique, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il n'a jamais su contourner un bloc bas. Et aujourd'hui, un bloc bas dans une Coupe du Monde à 46 équipes, où il y a beaucoup de petites équipes, contourner un bloc bas, c'est la chose la plus compliquée à faire, mais la plus nécessaire également. Et aujourd'hui, on sent que la Belgique n'est pas capable, on ronronne autour de cette surface, et puis on a, comme vous le disiez, un Romelu Lukaku hors de forme qui, à l'époque, comme Kevin De Bruyne, savait nous sortir de ce genre de situation. Aujourd'hui, il n'y arrive plus, ces deux garçons. Il n'y arrive plus. Et comme vous l'avez également rappelé, Didier, un Matias Fernandez-Pardo, le joueur de Lille, qui est jeune, qui a énormément de vitesse dans les pattes, lui aurait pu peut-être faire quelque chose. Il rentre à la 85e minute hier. 85e minute. C'est d'une grande n'importe quoi.
Alors je suis d'accord à cette différence près que pour moi Kevin De Bruyne il est nécessaire sur un terrain. On peut pas se passer d'un Kevin De Bruyne parce que lui sur une action il peut encore changer la phase d'un match.
Mais le problème c'est que ça fait 2 matchs et qu'il y a toujours pas d'action.
C'est vrai, encore que l'action la plus dangereuse des Belges, c'est quand même lui qui l'a fait avec un contrôle absolument exceptionnel le long de la ligne de but. Donc voilà, donc on peut pas faire sans. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que si vous me dites que Rudy Garcia ne s'est pas composé avec un bloc bas, je crains le pire pour samedi, parce qu'à mon avis, je pense pas que les Néo-Zélandais vont jouer avec la fleur au fusil et venir pour faire jouer l'attaque et d'imposer leur jeu.
La chose qui est la plus intéressante, c'est que les Néo-Zélandais sont quasi déjà éliminés, à moins d'une victoire contre les Diables qui les verraient se qualifier meilleur troisième. Donc ils vont jouer la gagne, parce que s'ils ne gagnent pas, ils sont éliminés.
D'accord, mais ils peuvent faire comme les Iraniens, attendre les Belges et espérer une contre-attaque. Ce qui a failli payer, et ce qui a payé pour l'équipe belge, je vous rappelle, mais vous étiez probablement pas né, mon cher Blaise, mais la Belgique était la reine des contre-attaques aussi à une certaine époque où ils avaient un statut mondial beaucoup moins reluisant qu'aujourd'hui, et pourtant ça a porté ses fruits à l'époque. Donc qui vivra verra. Et puis en même temps, très honnêtement, quand vous voyez les résultats de cette Coupe du Monde, j'ai presque l'impression que toutes les équipes peuvent faire des exploits. Je reviendrai 2 secondes sur l'exploit de Curaçao, hein, parce que comme je le dis toujours en plaisantant, tous les habitants de Curaçao sont sur le terrain et pas autour du terrain, parce que c'est un pays de 440 km², donc j'ai l'impression que tous les habitants font partie de l'équipe de foot, et ils ont quand même réussi à faire 0-0 contre l'Équateur, qui est un des outsider que, on va le dire à la Belge, mais quand même l'Équateur c'est l'Équateur. Et puis vous avez le Cap-Vert aussi, qui sont aussi avec beaucoup d'ADN portugais dans leur rang, mais ils ont quand même partagé l'enjeu 2-2 contre l'Uruguay. Donc il y a quand même pas mal d'équipes qui ont surpris. L'Espagne s'est réveillée, elle a quand même gagné 4-0 contre l'Arabie Saoudite. On s'attendait à une victoire, mais après le couac du premier match où ils avaient fait 0-0 contre, justement, je pense, une toute petite équipe, j'ai oublié laquelle. Mais...
C'était contre le Cap-Vert, Didier. Contre le Cap-Vert, très justement. Très gros match du gardien. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, le gardien qui s'appelle Vasinho, qui a 40 ans, le gardien du Cap-Vert, un connu au bataillon pour les plus grands connaisseurs du football. Eh bien, sachez, après ce match contre l'Espagne, son maillot a été en rupture de stock sur le site du fournisseur officiel de l'équipe du Cap-Vert, tellement le match a été impressionnant de la part de Vasinho.
Ah ben voilà qui devrait faire plaisir à notre ami Alex Demeter, qu'on retrouvera probablement ce soir dans On joue la prolongation. Lui, avec son Sportimize, il adore tout ce qui est concerne le marketing autour du foot. Et puis, que dire de plus, on va pas s'apesantir encore. Moi, ce qui me désole, c'est que normalement, contre la Nouvelle-Zélande, mais je pense que le règlement fait que Nathan Ngoy ne sera pas là, et j'estime pour moi que c'est vraiment une lourde perte pour la Belgique, sans compter que j'espère que Jérémy Doku sera remis de son petit souci.
Il est important de parler de Jérémy Doku, parce qu'effectivement, il n'était pas là hier soir, il était blessé, lui qui est
il est souffrant, il n'est pas blessé,
oui, hein. Il est souffrant,
problème respiratoire, ouais. Sous antibiotiques,
oui, c'est ça,
etc.
Oui, oui. Lui qui est dans une tourmente assez ridicule autour de la naissance de son enfant, évidemment qu'un père doit assister à la naissance de son enfant, Coupe du Monde ou pas, enfin en tout cas moi c'est mon avis, et les mauvaises langues qui diront qu'il devrait rester à la Coupe du Monde, qu'il réfléchisse à deux fois. On parle rapidement du programme, Didier, pour les prochains jours. Ce soir à 7h, on a le retour du sûrement le meilleur joueur de l'histoire du football, Lionel Messi, qui affrontera l'Autriche avec son Argentine à 7h du soir. Et puis ensuite la France qui jouera contre la France. C'est même pas fait exprès, Didier.
Le futur champion du monde.
La France qui affrontera l'Irak à 11h ce soir. Et puis cette nuit, pour les plus insomniaques d'entre nous, Norvège Sénégal à 2h, et puis Jordanie Algérie à 5h du matin. Didier, j'imagine que vous allez regarder Jordanie Algérie à 5h du matin.
Certainement. En tout cas, je serai réveillé, ça c'est sûr, mais je suis pas certain d'allumer la télé, ça c'est une évidence. Enfin bref, après il faut aussi saluer, parce que voilà, on est un peu chauvin, etc., mais il faut quand même saluer la performance des Iraniens, parce qu'ils ont quand même joué avec leurs armes et ils ont été très bons.
Très rapidement, également, vu qu'on est dans un contexte géopolitique assez compliqué, à noter que l'hymne a été majoritairement sifflé dans les tribunes. L'hymne de la République islamique d'Iran a été majoritairement sifflé, on le rappelle. La majorité des supporters iraniens qui sont dans les tribunes sont des supporters issus de la diaspora opposés au régime. L'hymne national a été sifflé hier.
C'est judaïque à sport, c'est pas judaïque à politique. Mais vous avez raison de le souligner, mon cher Blaise.